Radio Prague, les informations.
Les chrétiens ont célébré la résurrection du Christ. Tragique début du week-end pascal sur les routes tchèques. Une mission de l'armée tchèque est rentrée d'Afghanistan. Les fidèles ont été très nombreux en ce dimanche de Pâques à la cathédrale Saint-Guy de Prague, où le cardinal Miroslav Vlk a célébré la messe de la résurrection du Christ. Il leur a souhaité que cette fête soit un fruit de l'espoir pour leur vie, leur tristesse ou leur désespoir. Il s'est adressé aux étrangers en italien, allemand, anglais et français. Le dimanche de Pâques a été célébré dans toutes les paroisses de la Tchéquie, avec la participation d'un important nombre de fidèles. Le week-end de Pâques a commencé tragiquement sur les routes et autoroutes tchèques. Samedi déjà, 5 personnes ont été victimes d'accidents de la route. La police était omniprésente sur les routes, mais elle a aussi participé à un accident qui a fait un mort à Kladno, dans l'ouest de Prague. Malheureusement, l'hécatombe continue le dimanche de Pâques avec des morts, aussi bien parmi les automobilistes que les motocyclistes. Le bilan pourrait être lourd lundi soir. Les membres du deuxième contingent de l'armée tchèque qui étaient en mission pour 3 mois dans la province Uruzgan, en Afghanistan, sont rentrés en Tchéquie samedi. Ils étaient chargés de la protection de la base hollandaise Adrian. La mission tchèque, qui comptait aussi 2 femmes, sera remplacée par des soldats slovaques. Les pilotes et techniciens qui formaient des pilotes afghans sur des Mi-17 et Mi-24 ont aussi été rapatriés. Il fait chaud, et c'est le signal pour les tiques, ces incommodes mais aussi dangereux insectes, de sortir de leur hibernation. Certaines sociétés offrent un dépistage d'infections ou de maladies transmises par les tiques pour la somme de 1000 couronnes. Selon le corps médical, cela est inutile car la présence d'un virus dans la tique ne signifie pas automatiquement que l'homme sera contaminé. Cela dépend de la quantité de virus qui lui sera transmise. La région de Plzeň et la Bavière prépare la construction d'une nouvelle voie ferrée entre Plzeň et Regensburg, qui pourrait diminuer le trafic routier sur l'axe Plzeň-Domažlice, donc vers la frontière allemande. Une lettre d'intention sur ce projet a été signée la semaine dernière entre les ministres des Transports allemands et tchèques et les représentants des régions concernées en Tchéquie et en Allemagne. Samedi, un nouveau record de chaleur a été enregistré à l'observatoire du Clementinum à Prague. Dans l'après-midi, il faisait 23,3 degrés et le record de l'année 1781, donc vieux de 228 ans, avec 22,1 degrés, a été battu. Il a fait très chaud également en Bohême du Nord et de l'Ouest, mais c'est en Moravie du Sud, à Brod nad Dyjí, qu'il a fait le plus chaud en Tchéquie, avec 25,2 degrés. La météo pour terminer, elle reste stable avec des températures au-dessus des 20 degrés sur tout le territoire et de nouveaux records de chaleur ne sont pas exclus. Le ciel est bleu avec quelques nuages, cependant qui pourraient amener des averses dans la soirée de dimanche et lundi, surtout dans le nord et le nord-ouest. En montagne, la neige fond rapidement, mais dans certaines stations, on peut encore faire du ski dans la matinée. C'était Alain Slivinski avec le bulletin d'information sur Radio Prague. Je vous souhaite une bonne écoute de la suite de notre programme.
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour. Le 8 avril, Jacques Brel aurait eu 80 ans. Emporté trop tôt par la maladie en 1978, un hommage lui a été rendu il y a une dizaine de jours par son traducteur attitré en République tchèque, Jiří Dědeček. Car les chansons de Brel ont largement dépassé les frontières de la francophonie et ses hymnes à l'amour ou ses pamphlets contre les imbéciles ont su séduire un large public. Et en République tchèque, on aime particulièrement la chanson française à texte. Et celles de Brel ont été reprises, notamment par la grande Anna Hegerova, mais aussi, donc, par Jiří Dědeček, qui l'interprète, le traduit, tout comme il se fait aussi le porte-voix de Georges Brassens, Boris Vian, ou même de chanteurs français contemporains. Cet anniversaire était l'occasion de rencontrer Jiří Dědeček, qui a sorti en 2003 un album regroupant des chansons de Brel, des morceaux souvent moins connus, comme « La prière païenne ». Je lui ai donc demandé pourquoi cette chanson en particulier était si peu connue.
Tam se vás, Ah, ça, vraiment, aujourd'hui, il est trop tard de poser la question. D'après moi, elle est trop pathétique. Brel savait très bien jouer avec le pathos sur scène. Mais celle-là, quand même, elle est... C'est déjà un peu exagéré, c'est vraiment... Moi, ça me convient aujourd'hui parce que je deviens de plus en plus pathétique, personnellement. Alors, pour moi, ça passe bien, ça me fait du bien de la chanter. Je peux montrer un peu ma voix, ce qui n'était pas évident toujours auparavant. Et puis, je trouve que même si c'est tellement pathétique, pour nous, pour la Tchèque, c'est très important d'en écouter, d'écouter les chansons de ce genre, parce que les Tchèques sont, vous l'avez peut-être déjà constaté, sont très peu pathétiques. Les Tchèques n'ont pas le sens pour le pathos, et ils sont tous un peu schweiques.
Donc, en effet, vous parliez de cet album hein, que vous avez fait avec les chansons de Brel. Alors, il y a des chansons en tchèque traduites donc par vous de chansons de Brel et des chansons de Brel que vous chantez en français. Et en effet, c'est vrai, en regardant un peu la liste de chansons de cet album, je me suis dit, c'est des chansons que je connais pas pour la plupart. Enfin bon, si, oui. Il y avait Les Bourgeois, la chanson oui. Des vieux amants. Comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser un petit peu au Brel, justement, moins connu, plus caché, qui est peut-être d'ailleurs même pas connu, j'allais dire, des francophones?
L'idée m'est venue il y a 5-6 ans, peut-être. Et c'était une commande commerciale, si vous voulez, parce que l'Institut culturel, l'ambassade de Belgique est venue et m'a demandé de traduire quelques 3-4 chansons pour l'exposition Brel. Et d'en chanter une ou deux. Au lieu d'en chanter deux, trois, on a fait un petit concert, un vrai concert. Bon, et une fois, la propriétaire de la maison d'édition Music Wars est venue, elle m'a proposé de faire un CD. Pour dire toute la vérité, ce n'était pas une fois, elle est venue juste pour la première. Et c'était un rêve, vous savez, ça arrive une fois dans votre vie, elle est venue à la première. Elle a entendu mon Brel que j'ai chanté pour la première fois. Elle m'a proposé de faire un CD. C'est bien, non? C'est un American Dream.
Houby se se žár, okupivač ber, tlustý Adrieně posedět. Chodilo nás pár, Jojo, já a Pierre, splachovat těch našich 20 let. Jojo byl jakože Voltaire a Pierre byl Casanova a já vždycky tak hrdej, vždycky nad průměr, já tam bejval jen jakožto já. A k půlnoci se šlo zdravit notáře, co šli z hotelu pod tříma žantů. Způsobně jsme jim na zadní tváře jeli tam tu. Měšťáci jsou jak prasata, čím jsou starší, tím víc je blbost bere.
Alors un peu pour revenir plus loin dans le passé, en effet, donc Jacques Brel, mais aussi Georges Brassens que vous traduisez, vous avez aussi traduit Edith Piaf. Comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser à ce qu'on appelle en tchèque, c'est chansonnière, parce qu'en tchèque il y a aussi un nom particulier pour désigner cette chanson française à texte, on dit chanson. Comment est-ce que vous avez découvert ces chanteurs poètes?
Un peu c'était par hasard, parce que dans les années 80, j'avais une amie française, une amie correspondante d'abord, puis on s'est rencontrés à Prague, elle est venue me voir, je voulais l'épouser, finalement j'ai épousé une autre fille tchèque, mais quand même, elle m'a donné comme un cadeau de mariage ou de fiançailles, elle m'a donné 4 CD de Brassens. Elle m'a dit, c'est quelqu'un qui chante aussi mal que toi, qui joue aussi mal que toi de la guitare. Alors écoute ça, peut-être ça te permettra d'améliorer ton style. Je les ai écoutés et ça m'a beaucoup plu. Alors j'ai essayé d'en traduire 3-4 chansons. Et puis Brassens m'a beaucoup aidé pendant la période communiste parce que par hasard, j'ai réussi à faire un recueil de poèmes de Brassens. J'ai traduit à peu près une cinquantaine de ses chansons dans une maison d'édition spécialisée surtout à la musique. On l'a publié. Et à ce moment-là, j'avais déjà, pour les communistes, j'avais une justification. Je pourrais dire toujours, mais monsieur, je chante des choses qui sont publiées officiellement ici, vous avez un livre. Alors Brassens m'a beaucoup aidé parce que je me suis caché derrière lui et j'ai chanté à l'ombre de Brassens, je pourrais dire, j'ai chanté des chansons qui ne pouvaient autrement passer. Et puis les autres, c'est comme ça, vous traduisez un, vous pouvez traduire les autres. On m'a demandé après la révolution, parce que je suis devenu un peu, comment le dire, bien réputé en tant que traducteur de chansons françaises. On m'a demandé de faire Edith Piaf pour Svetlana Nalepkova, Boris Vian pour le théâtre de Dlouha, etc., etc. Il y a quelque chose, bien sûr. J'ai le sens pour le rythme du vers. J'ai peut-être un don, n'y diront pas le talent, c'est trop tard de dire à l'âge de 56 qu'on a du talent, mais quand même, je sais chercher les rimes, j'écoute le rythme, je le sens, et les chansons sont non seulement, disons, traduites fidèlement, mais elles sont même chantables, ce qui est très très important.
Ça m'étonne quand même ce que vous dites sur Brassens publié sous le communisme, parce que Brassens, quand même, pour le coup, c'était quand même un drôle de trublion qui était anarchiste et pas qu'à ses heures perdues. Hein.
Vous avez raison, mais pour les communistes, ils se disaient, mais oui, c'est la situation de la pauvre France. Chez nous, ça, c'est impossible, ça ne serait pas possible. Les prostituées, les pauvres gens, etc., c'est la France, c'est pas la République socialiste tchécoslovaque.
Donc finalement, ça les arrangeait, en fait, de montrer que la France n'était pas un pays de cocagne.
On en a parlé aussi profondément, mais finalement, pour justifier la publication de Brassens, il suffisait de dire, vous voyez, c'est l'image de la France des années 50, 60, et c'est Georges Brassens, leur grand classique, leur pilier de la chanson. On a déjà publié Edith Piaf, on a publié Jacques Brel, maintenant nous avons Brassens, ne faites pas des problèmes et laissez-le passer.
Aujourd'hui, par exemple, quand vous décidez de traduire une nouvelle chanson, je suppose qu'il y en a encore que vous n'avez pas traduite, ou alors peut-être qu'il en reste plus, est-ce que ça vous fait, par exemple, toujours le même effet quand vous commencez à traduire? Est-ce que vous, la manière dont vous ressentez le texte, et est-ce que le message, par exemple, j'allais dire, ou de Brel ou de Brassens, ça vous touche toujours autant?
Il y a des centaines, des milles de chansons que je n'ai pas traduites, bien sûr. Mais on change, les hommes changent, moi, je change au fur et à mesure. Je suis de plus en plus ouvert à l'idée de ce pathos dont on a parlé. Je choisis de temps en temps de traduire quelque chose de Brel pour m'exprimer moi-même, parce que il y a des choses qui parlent pour moi. C'est pas la peine d'en écrire une autre, c'est-à-dire la mienne, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà écrit, qui l'a déjà décrit, mes sentiments profonds, et qui s'exprime au lieu de moi, qui m'aide. Alors, il suffit de le traduire, de bien le traduire. Et puis, il y en a d'autres. Il y a, par exemple, le groupe Noir Désir. J'ai traduit la chanson « Le vent nous portera » que je chante. La chanson française en général, c'est vraiment une source d'inspiration pour moi et une source de renouvellement de mon répertoire si déjà je veux traduire et utiliser leurs chansons, leurs, c'est-à-dire chansons de vos grands chanteurs.
Jacques Brel était très acerbe vis-à-vis des imbéciles et même, j'allais dire, des cons. Je ne sais pas si on peut utiliser ce mot à la radio. Est-ce que ce message vous touche?
Ça me touche beaucoup. Les deux, Brassens et Brel, ils avaient la même, on peut dire, haine contre les cons. Mais vous savez, c'est partout. C'est dans le monde entier, c'est pareil. On a ces imbéciles, ces cons, nous en avons un sur le château de Prague. Nous sommes vraiment très malheureux. C'est une honte pour tout le monde, pour tous les Tchèques. On chante pour exprimer non seulement notre douleur, nos amours, nos passions, mais aussi nos opinions, si vous voulez, nos opinions aux citoyens. C'est obligatoire. On ne peut pas vivre coupé de la réalité. J'aime pas tellement chanter des chansons, je dirais, politique, je suis moins contestateur que j'étais auparavant, avant la révolution de Velour. Mais quand même, je vis dans ce pays, je l'aime, j'aime pas les gens qui lui font du mal, qui essaient de compromettre notre avenir.
Et c'est pour ça que vous, par exemple, que vous êtes engagé politiquement chez les Verts il y a quelque temps?
Il y a deux ans, il y a trois ans presque, oui, oui. C'était comme toutes les choses dans ma vie, un peu par hasard. J'ai rencontré Martin Bursik, le chef des Verts, à la poste. Je lui ai proposé mes services, c'est-à-dire chanter quelque part, faire un concert. Et finalement, il m'a dit, tu peux nous aider plus que ça. On peut faire ensemble plus que des concerts, des meetings. Alors finalement, j'étais le candidat. Heureusement, j'ai échoué dans des élections. Sinon, je ne peux pas imaginer ce que je ferais dans ce Parlement-là.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul.
C'était donc le chanteur, musicien, traducteur de Jacques Brel, de Georges Brassens ou de Boris Vian, Jerzy Dědeček. Il était mon invité cette semaine dans Culture sans frontières. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flancs.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc. Jarka Gisubelova.
Bonjour et bienvenue à l'écoute d'une nouvelle édition du guide touristique de Radio Prague. La semaine pascale que nous venons de fêter culmine par le lundi de Pâques, qui est réservé en République tchèque, avant tout aux coutumes populaires. Je vous invite à assister aux étrennes telles qu'elles se déroulent dans la campagne morave, dans la région surnommée Slovaquie morave, qui compte parmi celles où les coutumes populaires et le folklore authentique restent vivantes. Et puisque les fêtes de Pâques tombent aussi au début de la nouvelle saison touristique, nous allons visiter l'un des plus beaux châteaux de cette région, classé au patrimoine de l'UNESCO, le château de Vratice. Bonne écoute à toutes et à tous.
Rajte hoci, rajte, nica ne starajte, čak ja vam zaplatim, a žitka namladim. Až ja vam zaplatim, až žitka namladim.
Les fêtes de Pâques en Slovaquie morave sont célébrées d'une façon traditionnelle, avec des chants, des coutumes populaires, des mets typiques. Ne pas aller aux étrennes, ne pas fouetter les filles avec des pomlaska, espèce de tresse confectionnée de rameaux de saule, puis les asperger d'eau, sera impensable et impardonnable. Martin Pape de l'ensemble Olshava explique pourquoi on observe cette coutume qui pourrait sembler barbare aux visiteurs de la région. Son sens est caché dans le mot même pomlaska qui veut dire rajeunir. On la pratique donc pour que les filles restent jeunes, fraîches et saines, sourit-il.
U těch starších členek souboru je to vždycky, to pomlazení je o něco delší.
Chez les dames plus âgées, le rajeunissement dure toujours un peu plus longtemps, mais nous le prenons très au sérieux et avec beaucoup de responsabilité. Et ainsi, nous faisons de notre mieux et en sorte que chaque fille reçoive ce qui lui appartient.
Každé děvčici dostalo to nejlepší, co umíme.
Dans la tradition populaire, on croyait en effet que la force des tresses de jeunes rameaux de saule et de l'eau froide transmettent leur énergie, leur fraîcheur aux jeunes filles. Ce rajeunissement est plus symbolique que douloureux et ne provoque presque pas de protestation. Au contraire, les filles ont remercié les garçons et leur offrent des œufs colorés, diverses pâtisseries maison, du chocolat, de l'eau de vie de prune aussi, mais surtout les rubans couleur avec lesquels les hommes ornent leurs tresses de rameau en signe de succès de leur mission. Et puis, il est temps de s'asseoir à la table, goûter aux spécialités pascales, jouer et chanter. En dépit de son nom, la Slovaquie Morave ne fait pas partie de la Slovaquie. C'est une région à la limite des deux pays où les influences folkloriques se mélangeaient. Au sud, la Slovaquie Morave longe la frontière autrichienne et ce n'est pas loin de celle-ci que se trouve le château de Valtice, où notre promenade continue en compagnie de Darina Horka, guide touristique. Valtice a obtenu le statut de ville au XIIe siècle avec l'édification d'un château fortifié, raconte-t-elle. La famille Liechtenstein a acquis Valtice dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Elle est restée jusqu'en 1945 dans ce château. Au fil du temps, les Liechtenstein ont fait de Valtice leur siège familial. À la fin du XVIIIe siècle, l'activité paysagiste de Liechtenstein a abouti à la création aux environs des châteaux de Valtice et Lednice d'une aire naturelle, emménagée en parc de style anglais, parsemé de lacs et de petites constructions romantiques inspirées de l'Antiquité de l'Orient. Les travaux d'aménagement ont culminé par le remaniement du château de Valtice, d'origine renaissance, en siège baroque représentatif d'Arina Horka.
Le château possède plusieurs écuries, dont une dite espagnole, selon l'école d'équitation espagnole qui est reliée au manège couvert. Jusqu'à 150 chevaux pouvaient être logés dans de confortables boxes. Près de l'aile orientale du château se trouvait un bâtiment qui abritait des carrosses du luxe. De cette manière, tout était relié dans ce château.
Les architectes ont en effet tout prévu. Les Liechtenstein pouvaient s'amuser dans leur propre théâtre. Les intérieurs étaient équipés en accord avec les tendances de l'époque. Et les Liechtenstein, très modernes en leur temps, ont doté leur siège de nouveautés techniques. Ainsi, des réservoirs d'eau mis en place sous le toit, prédécesseurs des collecteurs actuels, ont permis de récupérer de l'eau de pluie. Pour un meilleur confort des habitants du château, on y a installé un ascenseur reliant les chambres situées dans les deux étages. L'ascenseur représente un bijou technique du château. Sa construction a commencé déjà en 1890 pour être achevée vers 1920. On ne connaît pas la date exacte, une chose est toutefois certaine, cet ascenseur est l'un des plus anciens parmi les ascenseurs électriques qui étaient installés dans des châteaux. Les chambres et les salles au premier étage familiarisent le visiteur avec le mode de vie de la famille noble de Liechtenstein. Elles sont de couleurs différentes et la plus grande d'entre elles est la salle de bal aux parois revêtues de marbre et ornées de reliefs sous forme d'instruments de musique. Le guide Darina Horka attire l'attention sur une autre curiosité du château de Valtice.
Une curiosité, c'est l'enfilade de portes. L'effet visuel des portes ouvertes qui se suivent en file, les unes après les autres, le long de toute aile orientale, ouvre la vue sur un couloir long de plus de 70 mètres. Et avant de quitter le château de Valtice, on peut s'arrêter dans la vinothèque au rez-de-chaussée pour déguster les grains crus de la Moravie et acheter un souvenir de cette visite. C'est justement au château de Valtice que le Centre national de viticulture a trouvé aujourd'hui son siège. C'est par ce guide touristique Pascal que le programme en français sur Radio Prague se termine. Merci de votre fidélité. Je vous dis au revoir. Nasledanou.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.